soit bien rangé. J'aime que ma famille m'obéisse. J'aime la chasse et mes copains bourrés. J'aime surtout la représentation du Christ. J'aime bien que les femmes n'avortent pas. J'aime bien la télévision. J'aime bien l'idée du partage. J'aime cependant ne pas donner mon pognon.
Écoutez, les pieds dans le plateau, on enchaîne avec le coup de gueule de Nadine. C'est parti.
Tout a été dit 100 fois.
Oh, le coup de gueule de Nadine. Nadine gueule. Ton coup de gueule.
Le coup de gueule de Nadine.
Bonjour, bonjour. Non, comme d'habitude, je gueule pas, c'est tout intérieur. Moi, je brûle d'un feu intérieur intense. Pour ça que parfois, j'ai l'air cramé. Puisqu'en ce jour de vote, il est prudent de ne pas parler de politique, mais est-ce conseillé ? Parlons théâtre. Et pour ne pas empiéter sur le domaine de la culture, ce n'est pas mon créneau, parlons théâtre des opérations. C'est une forme de théâtre particulière, mais il y a des acteurs et aussi des actrices en moins grand nombre. Ils et elles agissent en pleine lumière, même la nuit. Ça vole, ça explose, c'est ici, c'est là, c'est partout. Il y a aussi des coulisses, et dans ces coulisses, celles et ceux qui préparent les costumes, le matériel, le son, l'éclairage, et qui entrent dans l'action au besoin. Dans ces théâtres d'observation, l'une des opérations les plus utilisées est la soustraction. Il s'agit en quelque sorte d'éliminer d'autres protagonistes. Alliance, dissimulation, trahison, destruction, tout est permis. Et puis, des théâtres d'opération, il y en a beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs. Et ce qui se passe alors, c'est que quand on regarde un théâtre d'observation, on oublie souvent les autres. Surtout que la critique médiatique, un peu complice avec les auteurs quand même, nous montre les théâtres sur lesquels porter notre attention. Pendant ce temps, les autres, laissés dans l'ombre, continuent avec leurs troupes à s'y activer. Franchement, on n'oublie pas un peu l'Ukraine ces temps-ci ? Vit-il mieux, soudain, le peuple ukrainien ? Et Gaza ? Les Gazaouis reçoivent-ils enfin de l'aide humanitaire ? La population est-elle à l'abri du froid, de la faim et des fusils israéliens ? Et le Soudan ? C'est si loin le Soudan qu'on n'en parle même pas, on ne le voit pas. On ne voit pas ces 150 000 morts, ces 9 millions de déplacés, ces 25 millions de personnes en danger de famine. Il ne faut pas être dupe de ce qui se joue là. On nous raconte une histoire mais il s'en cache une autre. Un théâtre d'observation, ça doit rapporter. Ça doit rapporter du pouvoir et du fric. Et le jeu est souvent hors de la scène. Par exemple, on croit regarder la tragédie que vit le peuple iranien. Mais l'intérêt des directeurs du théâtre, il est dans le détroit d'Ormuz, il est dans le pétrole. Foin de l'intérêt des populations riveraines, il faut que les pétroliers circulent. Pourquoi, c'est bien la question. Bien sûr, il faut assurer notre approvisionnement en énergie fossile pour les logements, pour les transports, pour l'industrie. Mais la guerre menace. Le général Mandon nous a prévenus. Il pensait aux Russes, et puis c'est du côté de l'Iran que ça se passe, c'est du détroit d'Ormuz, voilà. Et tout ça pour alimenter, par exemple, des rafales. Le rafale embarque 5320 litres de kérosène. Il brûle environ 110 litres de carburant par minute. 110 litres de carburant par minute, lorsqu'on le pousse un peu. Les activités opérationnelles, ça s'appelle comme ça, c'est joli. On se croirait à l'école. En fait, c'est l'action de l'armée qui peut entraîner un engagement des forces aériennes, navales ou terrestres. Donc, en gros, la guerre, voilà. Ces activités opérationnelles, elles ne peuvent se passer de l'énergie fossile pour l'utilisation des matériels, nous dit Mathilde Jourde, chercheuse à l'IRIS, responsable du programme Climat, Environnement, Sécurité. Ce qu'elle nous dit donc le 20 septembre 2025, c'est qu'à l'échelle globale, si les activités militaires étaient un pays, elles seraient le plus gros émetteur de gaz à effet de serre du monde. Ça aussi, il faut y penser. Voilà, tous ces besoins à satisfaire sont apparents. Mais ce à quoi on pense moins, c'est que les activités militaires et les opérations ont besoin des industries d'armement. Ces industries d'armement, elles consomment. Voilà. Les industries appartenant à la base industrielle et technologique de la défense, elles ont consommé 1,9 million de tonnes d'équivalent pétrole d'énergie en 2013, ce qui représente 8% de la consommation totale de l'industrie cette année-là, selon l'Observatoire économique de la défense qui nous parlait le 23 novembre 2023. Pour fabriquer des armes, il faut aussi des minerais, des métaux, et les transformer, les acheminer. Les impacts environnementaux de l'industrie minière se font ressentir à l'échelle locale, régionale et mondiale. L'extraction minière peut provoquer l'érosion des sols, la formation de dolines, la perte de biodiversité, ou la contamination des sols, des eaux souterraines et des eaux de surface par les produits chimiques utilisés lors de cette phase. Ces processus affectent également l'atmosphère avec des émissions de carbone qui contribuent au changement climatique. Certaines méthodes d'exploitation minière, comme l'extraction du lithium, du phosphate, du charbon par enlèvement de sommets ou du sable, peuvent avoir des effets si importants sur l'environnement et la santé publique que les exploitants sont tenus en principe de respecter des codes environnementaux et de réhabilitation, codes très stricts, afin de garantir le retour à l'état d'origine de la zone exploitée. Moi, je pense à l'état d'origine de la zone exploitée de la guerre de 14-18. Ça donne un exemple. Si l'activité minière peut apporter divers avantages aux sociétés, elle peut aussi susciter des conflits, notamment concernant l'utilisation des sols. On voit ça en Amérique du Sud, par exemple. Autre chose à considérer. À la suite de la guerre que mène Poutine en Ukraine, les théâtres d'opérations dirigés au Proche-Orient par Trump et Netanyahou nous entraînent très loin du droit international. Le droit doit-il parfois se taire lorsque les armes parlent ? Cette opinion a pu prévaloir et elle continue d'imprégner certains discours. Alors que les règles du droit international sont gravement mises en cause, appeler à leur respect n'est ni vain ni idéologique. nous disent des membres du club des juristes. Et puis, je voudrais souligner, à une semaine de ces belles journées de lutte qu'ont été le 7 et le 8 octobre, que les femmes sont les innombrables victimes de ces guerres. Elles sont, avec les enfants, les grandes oubliées du droit. Et je vais vous lire un communiqué de ONU Femmes, enfin un extrait de ONU Femmes, le 22 octobre 2024. On estime que le nombre des pertes civiles dans les conflits actuels avoisine les 90% par rapport à l'ensemble des victimes. Elles concernent pour la plupart des femmes et des enfants. Il y a un siècle, 90% de ceux qui mouraient à la guerre étaient des soldats ou faisaient partie du personnel militaire. Bien que les conséquences des conflits armés frappent les communautés dans leur ensemble, elles affectent plus particulièrement les femmes et les filles du fait de leur statut social et de leur sexe. Les parties impliquées dans des situations de conflit pratiquent souvent le viol des femmes et ont parfois recours au viol systématique comme tactique de guerre. Le meurtre, l'esclavage sexuel, la grossesse et la stérilisation forcée constituent d'autres formes de violence à l'égard des femmes, comme dans le contexte de conflits armés. En dépit de ces actes, les femmes ne doivent pas simplement être perçues comme des victimes de guerre. Elles assument aussi un rôle clé en assurant la survie de leur famille pendant ces périodes de troubles et de destruction, et elles sont particulièrement impliquées dans les mouvements de défense de la paix au niveau élémentaire, sensibilisant leur communauté à une culture de la paix. Elles restent cependant absentes des négociations de paix. Et puis ce dernier texte, ONU Femmes, 20 octobre 2025. Le monde connaît actuellement le plus grand nombre de conflits en cours depuis 1946, ce qui implique des risques sans précédent et inflige des souffrances aux femmes et aux filles. Le rapport 2025 du secrétaire général des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité alerte sur les 676 millions de femmes qui vivent actuellement à moins de 50 km de conflits meurtriers, le niveau le plus élevé depuis les années 90. Le nombre de victimes civiles parmi les femmes et les enfants a été multipliée par 4 par rapport à la période précédente de 2 ans. Et la violence sexuelle liée au conflit a augmenté de 87% en 2 ans. Violence sexuelle liée au conflit a augmenté de 87% en 2 ans. Publié à l'occasion du 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité qui engageait la communauté internationale en faveur d'une pleine participation et protection des femmes dans les domaines de la paix et de la sécurité, le rapport indique que 2 décennies de progrès sont en train d'être réduites à néant. Les femmes et les filles sont tuées en nombre record, exclues des négociations de paix, est laissée sans protection alors que les guerres se multiplient. Les femmes n'ont pas besoin de nouvelles promesses. Elles ont besoin de pouvoir, d'une protection et d'une participation égale, a déclaré Sima Baous, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive d'ONU Femmes. Malgré les preuves irréfutables qui montrent que la participation des femmes rend la paix plus durable, celle-ci reste largement exclue de la prise de décision. Bien qu'un nombre croissant de pays ait élaboré des plans d'action nationaux pour appliquer cette résolution 1325, cela n'a pas toujours abouti à un changement concret pour les femmes. En 2024, 9 processus de paix sur 10 ne comportaient aucune femme négociatrice. Les femmes ne représentent que 7% des négociateurs et 14% des médiateurs à l'échelle mondiale. Le rapport souligne également l'existence d'un déséquilibre dangereux, alors que les dépenses militaires mondiales ont dépassé les 2 700 milliards de dollars US en 2024. Les organisations de femmes présentes dans les zones de conflit n'ont reçu que 0,4% de l'aide. Les 2 700 milliards de dollars en 2024, les femmes 0,4% de l'aide. Un grand nombre de groupes de femmes de première ligne risquent de fermer leurs portes très prochainement en raison de contraintes financières. Ce ne sont pas des points de données isolés, ce sont les symptômes d'un monde qui choisit d'investir dans la guerre plutôt que dans la paix, qui continue d'exclure les femmes de la définition des solutions, a poursuivi Madame Baus. Le rapport souligne l'urgence d'une révolution des données sur le genre. Sans données ventilées, la réalité des femmes dans les zones de guerre demeure invisible et ignorée. Et je voudrais conclure juste parce que j'ai entendu une partie de l'heure d'information de débat sur France Culture. Je n'ai pas noté le nom des commentateurs qui étaient là et qui réfléchissaient, qui nous faisaient part de leurs réflexions. Mais ils semblaient quand même bien embêtés maintenant. Enfin, embêtés, j'en sais rien, ils sont toujours arrogants. Ils semblaient quand même revenir un petit peu sur leur position parce qu'il semble que Trump demande une implication des forces aériennes au Proche-Orient. Trump, je ne sais pas, enfin, personne n'a obligé qui que ce soit à prendre part avec Trump à l'OTAN et à ses opérations foireuses d'enlèvement de chefs d'État, de bombardement d'autres. Le droit international, on l'a dit, il n'existe plus. On a parlé des grandes vedettes, je vous le dis, des grands auteurs de ces théâtres d'opérations. On a oublié la réalité de la guerre et ses conséquences. Voilà. Merci à une prochaine avec depuis en 1846 le chant des ouvriers de Pierre Dupont.
Merci Nadine.
À chaque fois que par torrent notre sang coule sur le monde. C'est toujours pour quelques tyrans que cette rose est féconde. Ménageons-la dorénavant, l'amour est plus fort que la guerre. En attendant qu'un meilleur vent souffle du ciel ou de la terre.
À l'indépendance du monde. Buvons.
Elle revient de la fête de l'humain, elle est contente, elle a vu de joli, elle a rodé de ci de là, dans tous les stands du parti, des posters de Che Guevara. L'on a eu sa dose aujourd'hui. Faut dire qu'elle serait plutôt de l'autre côté du drapeau. Plus CIA que KGB et plus Pinochet qu'Allende. Faut dire qu'elle est con comme un veau. Elle est facho. Et ouais, elle est faite populaire. Après tout, c'est pour tout le monde. C'est pas écrit sur son imper qu'elle adore la bébête immonde. Vaut mieux car dans cet univers, elle pourrait bien se faire tondre. Ça serait dommage, car sa crinière de cheveux blonds, elle en est fière, Ariel jusqu'au fond des yeux, ça détonne dans sa banlieue. Elle aime aussi sa blanche peau, elle est facho. Elle voit partout les bolcheviks, elle imagine des complots, contre l'ordre, contre les flics, contre l'église et le drapeau. Elle voue une haine chronique, à la télé et aux journaux. Elle conchit les politiques, les jeunes qui vont à volo, et les mœurs pas très catholiques, et les PD et les micos. Elle rêve d'un ordre nouveau, elle est facho.
Et on n'aime pas les fachos.
On les aime pas, non, on les aime pas, non.
Elle a surtout la nostalgie du sabre et du goupillon, de la nation, de la patrie, débarrassée d'immigration, dit que l'ancien temps était béni, comme disent la plupart des cons. On regrette le temps des colonies, la peine de mort légalisée, de l'avortement interdit, et maudit les jeunes filles voilées. Et elle lit National Hebdo, elle est facho.
Et on n'aime pas les fachos,
ni les fachottes.
À 18 balais, plein d'éducation et de diplômes, dit des rebelles d'humanité, et qui lui disent tes vieux discours manquent singulièrement d'amour. Qu'il rajoute à la triste dame, reste donc le nez dans ta merde. Je suis amoureux d'une musulmane, je vote écolo et je fume de l'herbe. Espérons ça lui fera la peau à la facho.
Et on n'aime pas les fachos.
Et on n'aime pas les fachos. Et on n'aime pas les fachottes.
Espérons ça.